Eh bien, alors nous allons enchaîner. Je vais donc demander à mes collègues de la BPI, Damien D. et Christophe Evans, de nous rejoindre sur l'estrade. Et vous allez en savoir plus sur ce qu'on fait à la BPI.
Merci Éléonore. Bonjour à toutes et tous. Je vais prendre un peu de temps à Damien D. sur son intervention pour essayer de remettre un petit peu en contexte. Comme Christine Carrier vous l'a dit dans son mot d'introduction, à la BPI, la mesure de la fréquentation de l'ensemble des activités de l'établissement a été confiée au service études et recherches, qui n'est pas un simple observatoire des publics, comme on en trouve aujourd'hui dans certaines bibliothèques, en tout cas dans pas mal d'institutions culturelles, mais qui est aussi un opérateur de recherche, en particulier avec certaines opérations qui sont conjointement lancées avec le service du livre et de la lecture, et notamment dans le domaine de la sociologie de la lecture. Alors, ce choix, qui est un choix un peu particulier, a eu des incidences, des conséquences sur le rapport que nous entretenons à la BPI avec les données, qu'il s'agisse de leur production, qu'il s'agisse de leur traitement, qu'il s'agisse de leur archivage ou qu'il s'agisse également de leur retraitement. Damien aura l'occasion de donner des exemples concrets sur ces questions. De mon côté, je vais essayer de vous donner quelques exemples rapides donc de toutes ces incidences en termes de positionnement dans un organigramme d'établissement, dans un service spécifique, tout en étant évidemment conscient du fait que nous ne sommes peut-être pas si singuliers sur ce plan. Je pense que d'autres établissements, et là l'intervention de Gaëlle Denis m'incite à le penser encore plus, ont aussi, je pense, ces mêmes principes activés par rapport à la mesure des données de fréquentation. Alors, on va le voir au cours de la journée, ça a été rappelé par Christine Carrier également, les données de fréquentation sont avant tout des outils de pilotage au quotidien. Elles permettent, quand elles sont bien étalonnées, il faudra revenir sur cette question, de fournir des indicateurs d'activité très utiles pour le présent, pour l'extérieur, mais aussi pour le futur. C'est-à-dire qu'on peut extrapoler à partir de données de fréquentation bien archivées. D'où l'importance de bien les collecter, de bien les nettoyer et surtout de trouver la meilleure façon de les faire parler, c'est-à-dire les mettre en contexte. Une baisse, une hausse de la fréquentation, au-delà de l'aspect purement comptable, ça s'explique, ça se remet en contexte. Et ensuite, bien sûr, de bien les partager au sein d'un établissement et à l'extérieur. Alors là, nous sommes évidemment très attachés à la BPI, à ces principes. Les données de fréquentation sont également des outils de connaissance des publics, d'une forme de connaissance de l'extérieur, par certains côtés, puisqu'elles sont rarement en mesure de renseigner sur les profils des usagers ou de témoigner en tant que telles des expériences vécues par ces mêmes usagers. Alors, on a vu que certaines normes commençaient justement à inciter à aborder ce continent de l'effet ou de l'impact de la fréquentation. Mais c'est aussi toute la différence qu'on va pouvoir faire entre la fréquentation et la fréquence de fréquentation, qui mérite aussi d'être abordée. Alors, elles sont irremplaçables, ces données de fréquentation, en revanche, pour faire apparaître des rythmes de visite, des saisonnalités de fréquentation, des récurrences tout à fait significatives. Pourquoi significatives ? Parce que l'agrégation de comportements individuels, plus ou moins massifs, produit des phénomènes sociaux. Et parfois, ce qu'un sociologue comme Raymond Boudon appelait des effets pervers, blocage, embouteillage, saturation à la BPI. Alors, quelques exemples à la BPI, pas toujours très intuitifs. On peut parler, par exemple, de ce qu'on appelle chez nous, à études et recherches, la dernière vague, c'est-à-dire les personnes qui sont encore présentes à 21h45 avant la fermeture, parfois plus de 1000 personnes, et c'est un phénomène qui se produit régulièrement et qui mérite d'ailleurs d'être bien encadré, notamment quand on fait des enquêtes. On peut donner aussi l'exemple des pics de fréquentation qui sont enregistrés à partir de la deuxième semaine des congés de certaines vacances scolaires, alors qu'au contraire, au cours de la première semaine des vacances scolaires, on a une baisse significative de la fréquentation. Voilà, nous sommes habitués à ces récurrences à la BPI. Et enfin, un dernier exemple, il faut signaler la singularité d'une journée telle que le dimanche à la BPI, hein, qui ne ressemble à aucune autre et qui montre effectivement une forme de fréquentation qui est tout à fait typique, avec notamment une durée moyenne de visite qui est beaucoup plus élevée que celle des autres jours de la semaine. Les chiffres bruts de fréquentation sont donc très utiles, mais nous aurons l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises au cours de la journée, un peu frustes. Les entrées ne sont pas des entrants, hein, alors que la confusion est souvent faite à ce propos. Les moyennes ou les ratios sont souvent beaucoup plus pertinents que les données brutes non recalculées. Nous essaierons d'en donner des exemples. Et à cette connaissance de l'extérieur, enfin, comme je le suggérais un peu plus tôt, il manque une connaissance de l'intérieur, qui peut être elle aussi très utile. Celle que les enquêtes quantitatives et les enquêtes qualitatives de public permettent notamment de produire pour articuler une connaissance des flux avec une connaissance des profils des usagers et surtout des effets, encore une fois, et des impacts de leur fréquentation. Soit, si vous voulez, pour résumer, une alliance vertueuse entre pilotage de l'établissement, connaissance des publics, données descriptives et données compréhensives. L'enjeu étant, pour toutes ces données, de produire du sens plus que de produire du chiffre à proprement parler. Et je donne la parole à Damien pour aborder des aspects à la fois pratiques, mais des aspects aussi scientifiques, hein, par rapport aux choix qui ont été faits à la BPI en matière de suivi de la fréquentation.
Merci, bonjour. Donc là, on va progressivement zoomer pour aller se rapprocher plutôt de la partie données d'entrée, données brutes, mais effectivement avec toujours en tête l'importance de la complémentarité de ces données avec des données plus qualitatives. Quelques dates juste pour continuer à poser le contexte sur l'historique du suivi de la fréquentation, enfin sur le contexte du suivi de la fréquentation à la BPI. Donc le service études et recherches, c'est un service qui émerge en 76. L'année suivante, 77, la bibliothèque ouvre, rencontre un niveau massif de fréquentation, trois fois plus élevé que ce qui était attendu. Et dans ce contexte de fréquentation massive, l'observation de la fréquentation des publics devient rapidement un axe privilégié de l'activité du service. L'année suivante, en 78, un premier gros dispositif d'observation de la fréquentation et des publics est mis en place, avec une première enquête générale de fréquentation. Donc ce sera la première enquête d'une longue série, puisqu'en 2022, on est à la 13e édition. Donc là, c'est une première production d'un certain type de données sur la connaissance de la fréquentation et les publics, données produites dans le cadre de questionnaires administrés à des publics en sortie de bibliothèque. Deux ans plus tard, il y a un nouveau type de données qui arrive dans ce champ de la connaissance de la fréquentation, avec l'installation d'un nouveau système de comptage qui permet de faire la balance des entrées et des sorties. Donc c'est d'abord un outil qui a été mis en place dans le cadre d'une politique de gestion de la jauge et de gestion de la sécurité, puisque dans le contexte de la fréquentation qui était très importante à l'époque, la direction voulait pouvoir stopper les flux si le nombre de personnes présentes dépassait un certain seuil. Donc c'est d'abord un outil de gestion de sécurité, mais les données produites peuvent être détournées à des fins d'observation pour peu qu'on les remette en contexte. Et ce sera un peu plus tard, 20 ans plus tard, en 2000, que le SER commencera à travailler sur ces données qui restent aujourd'hui encore une de nos principales sources d'informations en termes de flux de public, même si ce n'est pas la seule. Donc sur la partie, donc là c'est le plan de l'intervention, l'idée c'est de, là je vais essayer de vous faire vraiment une description assez d'un point de vue pratique sur comment est-ce qu'on fait sur le traitement de ces données de fréquentation, de ces données d'entrée, en essayant de vous décrire le cheminement depuis la source jusqu'à ces différentes formes d'utilisation, de restitution. Donc au tout début de l'histoire, il y a les compteurs du système de gestion de jauge. Donc chez nous, c'est des compteurs assez basiques, donc ce sont des capteurs photoélectriques. Vous en avez peut-être croisé en entrant dans le bâtiment, donc ça prend la forme de sorte de double plots. Le public passe entre ces plots. Sur l'un des plots, il y a une feutrine. Sur l'autre, il y a un capteur qui porte deux diodes émettrices, une diode réceptrice. Les diodes émettrices projettent un faisceau de lumière invisible qui rebondit sur la feutrine qui est captée par la diode réceptrice. Quand une personne, une ou plusieurs personnes passent, les faisceaux sont coupés et une entrée ou une sortie est enregistrée en fonction du sens de la coupure. Et donc toutes ces données, minute par minute, d'entrée et de sortie, sur les différents points où les bornes sont installées, sont cumulées dans un fichier Excel qu'on reçoit tous les jours, régulièrement. Donc ça, cette source d'information, ça va nous servir, ça nous sert ici uniquement pour les espaces de lecture. Donc là que vous voyez en jaune sur le plan, donc ce sont les trois niveaux de la bibliothèque. Mais une partie de l'action que la BPI mène, notamment sur les actions culturelles, se déroule en dehors de zones soumises à compteurs. C'est ce qu'on appelle la fréquentation globale, où on ne compte pas que ce qui se passe dans les espaces de lecture, mais aussi là où on propose des choses à l'extérieur de nos murs ou dans le centre Pompidou, à l'extérieur des espaces de lecture. Et donc dans ces cas-là, c'est un comptage humain qui est effectué, mais dans la même unité de mesure que celle des compteurs, c'est-à-dire en entrée. Donc une fois qu'on a la source, se pose la question de comment est-ce qu'on la traite et dans quelle mesure on peut y voir des traces d'usage. Donc nous, il y a une première étape, c'est une étape de nettoyage et de sélection des données, puisque dans ces fichiers qu'on reçoit, il y a beaucoup plus d'informations que ce dont on a besoin pour le suivi de la fréquentation dans les espaces de lecture. Donc il y a une première étape de nettoyage. En gros, on ne garde que les éléments d'horodatage, donc la date, l'heure, la minute de l'événement, et puis les entrées, les sorties, et la balance entrée-sortie. Donc les entrées moins les sorties. On garde que ça. Et ensuite, on aborde ces données avec un certain nombre de précautions. Donc comme le disait Christophe, on garde bien en tête que c'est un comptage en nombre de passages, pas en nombre d'individus uniques. Un individu unique peut, sur une même journée, créer plusieurs entrées, plusieurs sorties. La balance des entrées-sorties, donc les entrées moins les sorties, donne en théorie le nombre de personnes présentes à un instant T dans la bibliothèque, mais c'est une estimation théorique avec une marge d'erreur, puisqu'en fin de journée, nous on constate régulièrement que la balance des entrées-sorties n'est pas à zéro. A priori, personne ne dort dans la bibliothèque, mais elle n'est pas à zéro parce que chaque journée, il manque un peu d'entrées, un peu de sorties, parce que y a des accès professionnels qui ne sont pas soumis à compteur, donc un professionnel peut entrer par une voie publique et ressortir, auquel cas il manque une entrée ou une sortie. Peut y avoir des passages en grappe, donc des personnes qui rentrent un peu trop collées, le faisceau lumineux ne se reconstitue pas et donc il n'y a qu'une entrée ou qu'une sortie de compté. Et puis il peut y avoir des problèmes techniques, une cellule défaillante, il y a plusieurs ordinateurs qui sont en réseau pour la constitution du fichier, peut y avoir des plantages, Donc, de façon générale, on tient un journal de bord des dysfonctionnements du système pour pouvoir remettre en contexte la donnée qu'on pourra y lire. Et on essaye de régulièrement enregistrer aussi dans ce carnet de bord toute donnée, toute remontée d'informations, toute observation empirique ou toute remontée d'informations qui pourra permettre de contextualiser. Donc, une fois qu'on sait dans quelle mesure on a une trace d'usage, dans la source, donc reste à sélectionner en fait ce qu'on va considérer comme pertinent à observer de façon récurrente. Donc ça nécessite une étape préalable de sélection dans le cadre d'un dialogue interne où les différentes parties prenantes font émerger un consensus sur ce qu'il est faisable de suivre, ce qui est significatif de suivre. C'est de mettre plus ou moins en dialogue toutes les parties prenantes, les référents techniques qui ont la connaissance des conditions de production de la donnée et puis les diverses chaînes hiérarchiques qui auront la lecture plus stratégique sur tel ou tel éclairage de l'activité. Une fois qu'on a ensuite choisi donc, un ensemble de données ou d'indicateurs, donc de données qu'on trouvera de façon plus ou moins brute dans les fichiers sources ou d'indicateurs qui, eux, seront plus retravaillés, donc il ne reste plus qu'à les suivre. Donc là, je vais vous en présenter quelques-uns, ce n'est pas exhaustif. Donc on suit par exemple tout simplement le total d'entrées du jour, qui sont en fait soit la somme des entrées au moment de la fermeture de la bibliothèque ou la somme des sorties. on prend la valeur la plus haute à chaque fois, puisqu'on considère que c'est la donnée la plus complète, comme on a évoqué, la balance des entrées sorties n'est pas toujours équilibrée en fin de journée, donc on prend la donnée la plus complète. On fait aussi des courbes par minute, où on met la ligne temporelle en abscisse, et on fait des courbes d'entrée, de présent, de sortie, dans le cadre d'un outil de suivi hebdomadaire, où l'idée, c'est de permettre au lecteur, en un coup d'œil, de pouvoir avoir une idée des tendances de la fréquentation de la semaine précédente. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de courbe de présent sur un dimanche en vert et un mercredi en orange, en octobre 2022, où l'idée c'est de ces graphiques, c'est de voir en un coup d'œil s'il y a eu une particularité, un niveau d'occupation anormal ou anormalement haut ou bas, s'il y a eu potentiellement des problèmes de saturation, de durée de visite très longue. Et puis on voit assez rapidement que le dimanche est plus occupé que le mercredi sur ces deux exemples. Donc là, deux exemples de données qu'on suit régulièrement à partir de ces données assez basiques d'entrée-sortie par minute. Après, on a quelques indicateurs. Je vais vous en présenter deux, mais il y en a plus. Donc on a une mesure du taux d'occupation. Donc là, c'est une mesure maison où l'idée, c'est de donner une mesure synthétique du niveau d'occupation de la bibliothèque pour une journée. Et donc, on la calcule de cette manière. En fait, on fait des relevés, on prélève dans les fichiers d'entrée-sortie, on prélève un certain nombre de valeurs de présent. Donc, en fait, toutes les heures, à partir d'une heure après l'ouverture jusqu'à une heure avant la fermeture, on regarde combien il y a de personnes présentes dans la bibliothèque. À partir de ces différentes valeurs des présents, on calcule la médiane. Donc, on a une médiane du jour du nombre de présents dans la bibliothèque, et on la rapporte à la jauge déclarée, qui est le nombre maximal de personnes autorisées à rentrer. Donc ça donne un résultat en pourcentage. Par exemple, tel dimanche était occupé à 95% et tel mercredi à 75%. Donc voilà, ça donne une valeur chaque jour. Autre indicateur produit avec ces données assez basiques d'entrée-sortie, c'est celle de la durée moyenne de séjour. Donc là, c'est plus un indicateur de tendance. C'est une estimation théorique du temps passé en moyenne dans la bibliothèque par l'ensemble des publics. Donc c'est un indicateur de tendance, mais qui nous permet en fait de voir différents types d'usages et aussi de faire des hypothèses sur la composante du public selon les périodes de l'année, selon les mois, selon les jours de la semaine. Puisque du coup, on sait par le biais des enquêtes plus qualitatives et par le biais des enquêtes barométriques, que certains profils de public, les étudiants notamment, ont tendance à rester beaucoup plus longtemps que les autres pour travailler sur place. Tandis que les retraités, ou en tout cas à la BPI, les retraités ou les actifs, restent tendanciellement moins longtemps et ont un panier d'usage un peu différent, avec plus de consultations par exemple. Et donc en fait, là, avec cette estimation de la durée moyenne de séjour, on a aussi une hypothèse sur l'évolution au fil des jours de la semaine ou au fil de l'année de la composante du public, puisque quand elle va monter, on va considérer qu'il y a plus d'étudiants dans les publics, et quand elle va descendre, que le public sera plus mixte, avec plus d'actifs, etc. En tout cas, ça, c'est possible parce qu'on confronte ces données d'entrée avec les données aussi issues des enquêtes. Voilà. Alors après, pour la petite histoire, on a aussi une valeur qu'on arrive à estimer de la durée moyenne de séjour à partir des données déclarées dans les enquêtes. C'est pas le même résultat qu'on a. Par contre, on est sur les mêmes tendances en termes de répartition. Donc on considère que aucune de ces types d'indicateurs n'est absolument vrai dans l'absolu, mais si on maîtrise les marges d'erreur, on peut avoir des tendances qui sont fiables. Autre exemple, c'est la durée de dépassement de la jauge déclarée. En fait, ça avait été mis en place pendant le Covid, où il y avait une attention particulière sur les questions de distanciation sociale et donc sur le nombre de personnes qui maximales qui étaient là, présentes en même temps dans la bibliothèque. Donc voilà, un autre exemple d'indicateur suivi. Donc après, d'un point de vue concret, pratique, comment est-ce qu'on produit ça? On peut le faire à la main, mais ça peut prendre du temps et puis on peut se tromper. Donc on utilise tout simplement un tableur. Là, en l'occurrence Excel, mais ça pourrait être autre chose. Un tableur mixé avec des fonctionnalités de macro, où du coup, la macro, c'est une partie de tâches automatisées. C'est assez simple à mettre en place puisque c'est assez bien documenté en ligne. Et puis notamment avec les IA aujourd'hui, on peut facilement produire du code qui automatise certaines tâches répétitives. Et donc on se sert de la partie macro pour sélectionner uniquement les données qui nous intéressent et les coller dans un fichier de restitution, dans des onglets dédiés aux données sources. Et donc il y a un onglet dans ce même fichier de restitution qui va se mettre à jour automatiquement une fois que la macro aura collé les données sources de la semaine. Donc les différents tableaux graphiques se mettent à jour en fonction des données de la semaine. Donc ça, c'est un outil assez que je trouve pas mal parce que du coup, le côté automatisé est assez réduit à des fonctions simples. Donc c'est assez facile à mettre en place, à maintenir. Puis après, sur la partie restitution, c'est du Excel classique. Donc c'est assez souple. C'est un exemple. Après, on n'utilise pas que du tableur classique, dans le sens où on a beaucoup de couches de restitution. On présente des indicateurs de différentes façons au fil de la production de rapports ou autre. On est sur différentes temporalités, donc on produit de façon hebdomadaire, mensuelle, annuelle. Et on éclaire différemment parfois des mêmes indicateurs. Il peut nous arriver de zoomer sur un périmètre d'activité ou de dézoomer, ou alors aussi on peut être amené à produire des outils de suivi dédiés à certains services. Donc dans ces cas-là, de rester juste sur du tableur, ça peut, enfin en tout cas moi j'ai tendance à faire des erreurs. Donc du coup on a basculé sur un outil de type BI, Business Intelligence. Donc en fait, c'est tout un ensemble d'outils qui sont faits pour traiter les données et les restituer graphiquement dans une perspective d'aide à la décision ou de visualisation. En l'occurrence, nous, on utilise Looker parce qu'on est sur la suite Google Workspace, mais il y a plein d'autres choses possibles. L'avantage de ces outils-là aussi, c'est que ça ingère en entrée des données relativement brutes. Il suffit d'avoir une liste propre de données. Il n'y a pas besoin de beaucoup les retravailler et on peut rapidement aller sur de la mise en forme et on peut tester différents éclairages, on peut combiner différentes sources de données. Et puis on peut aussi faire du traitement en série si on veut faire des tableaux de bord pour adapter à différentes personnes, à différents services en fonction d'une même source de données générique. Donc là, je vous ai surtout parlé du traitement des données issues des compteurs que je vous ai présenté au tout début. Après, effectivement, comme je vous l'évoquais, on a une partie de l'activité qui est suivie par des données rentrées manuellement pour l'action culturelle et les médiations. Où là, la particularité, c'est qu'on est dans une situation de forte décentralisation. Il y a beaucoup, beaucoup de référents, beaucoup de services concernés. On a mis en place des fichiers de saisie avec des données harmonisées. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a fait le choix de rester sur plusieurs fichiers et de partir des outils qui étaient déjà préexistants et juste de les pousser un peu plus vers de l'harmonisation. Et ensuite, il y a la possibilité de les faire communiquer entre eux pour récupérer et vraiment bien compiler les données pour qu'ensuite elles soient exposées à un outil de visualisation. Puisque du coup, quand on est sur une situation avec de la saisie humaine, il faut aussi penser à l'ergonomie et puis le côté usager, la personne qui saisit. Il faut que ça reste pas trop désagréable. Et voilà, présenter un fichier avec 5000 lignes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus ergonomique. Donc maintenant, on peut aussi facilement faire circuler de la donnée a posteriori et un peu la retravailler, l'harmoniser après la saisie. Voilà. Comme vous avez vu, on bricole un peu. On a plusieurs briques, plusieurs outils. Dans une perspective d'essayer de rationaliser tout ça et aussi de sécuriser l'archivage et de faciliter les analyses sur le long terme, puisque là actuellement sur les données d'entrée, on a un fichier par jour depuis 2000. Donc on travaille aussi avec la DSI sur la constitution d'un gros entrepôt de données, où là, toutes les données issues des compteurs depuis 2000 a été versée. Et là, on travaille sur des requêtes pour faire remonter les indicateurs et les données qu'on suit habituellement. Donc là, c'est dans une perspective et d'amélioration de l'automatisation, de rationalisation du traitement de l'info et sécurisation aussi de l'archivage. Donc à quoi ça sert tout ça? On a identifié un peu trois fonctions. La fonction un peu de gestion dans le contrôle de routine. On produit donc des sortes de tableaux de bord qui, dans le but de mettre au même niveau d'information le codir ou l'ensemble des personnes qui peuvent être amenées à gérer l'ouverture de l'équipement. Donc ça rentre en complémentarité avec d'autres outils comme les outils de signalement d'événements particuliers ou le cahier des responsables de SP. Il y a une fonction éventuellement d'ajustement ou ça peut alimenter l'évaluation quand il y a un ajustement, une modification d'une condition d'accès, d'une condition, d'une des modalités de la condition d'accueil du public. Dans le sens où on peut changer un horaire d'ouverture, on peut mettre en place un système de tickets à l'entrée, on peut changer un accès. Donc ces données-là peuvent aussi contribuer, pas seulement, elles ne suffisent pas à elles seules, mais elles peuvent contribuer à l'évaluation de modification des conditions d'accueil. Puis après, il y a le reporting institutionnel, où ça permet d'avoir un stock de données toujours disponible, le plus frais possible, par rapport à des besoins vis-à-vis de partenaires, de tutelles, voilà. Donc voilà, c'était vraiment la partie générale par Christophe, et puis un peu comment ça se passe sous le capot, sur la partie données.
Mais vous avez peut-être des questions, parce que j'aime bien quand Damien dit « c'est assez facile ». Non. Donc si vous avez des questions, aussi bien d'ailleurs sur les aspects pratiques que sur les aspects stratégiques, voire historiques, n'hésitez pas. Je pensais à une chose aussi, nous n'avons pas souvent le temps de le faire, mais les collègues de la DSI, donc le département des services informatiques, sont en mesure de le faire, en particulier le responsable du département, Marc-André Grosi, c'est qu'avec les bornes Wi-Fi, nous sommes en mesure de tracer la fréquence de visite d'appareils qui viennent à la bibliothèque et qui sont portés par, comme vous le savez, des êtres humains comme vous et moi. Et donc, on peut aussi s'intéresser à la répétition de leur visite. On peut changer d'appareil en cours de route. Donc, un appareil n'égale pas une personne. Loin de moi cette idée. Mais on a aussi ce type de données qui peuvent être utiles. Alors, tout le monde n'est pas équipé, les bornes Wi-Fi permettent de suivre des smartphones et des micro-ordinateurs, même quand ils sont éteints. Hein, donc, c'est quand même pour nous assez, assez massif.
Oui, je vais me lancer sur les questions. Une question très pratico-pratique, parce qu'aujourd'hui, on va voir tout au long de la journée qu'il existe plein de nouvelles technologies concernant les dispositifs de mesure. Et loin de moi l'idée de critiquer ce que vous avez, mais c'est somme toute assez classique. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous expliquer les motivations et raisons qui font que vous avez et gardez ce type de dispositif de mesure ?
Réponse très simple. En fait, ce travail est fait et relève de la responsabilité du Centre Pompidou et pas de la BPI. Voilà. Donc, en fait, nous sommes tributaires de l'alimentation de nos données de fréquentation par le centre qui, en fait, a décidé de la solution technique. C'est aussi simple que ça. Alors, ça va faire l'objet, j'imagine, d'une discussion au moment de notre installation provisoire sur le site Bercy Lumière, puisqu'il va falloir soit déplacer des machines, soit acheter des machines. Mais voilà, ça s'est fait comme ça.
Dans quelle mesure vos pratiques de mesure, vous les travaillez aussi avec le musée? Enfin, quels échanges vous avez dessus?
Alors en fait, c'est en permanence avec le centre, donc plus que le musée, c'est-à-dire le centre, puisque en fait notre interlocuteur relève plutôt du service sécurité pompier, c'est ça.
Ouais.
Voilà, donc on a une transmission régulière de la fréquentation de l'ensemble des espaces du centre, hein, qui permet d'ailleurs un suivi collectif. En fait, puis ensuite un retravail par département. Et nous, ensuite, on va récupérer ces données et en faire un traitement spécifique à la BPI. Mais tout se fait à la base collectivement et y a un reporting pour l'ensemble des départements du centre Pompidou, si c'est la réponse à la question que vous posiez. Peu. Peu, et c'est bien dommage, mais c'est difficile en fait. Département associé, mais en même temps avec un mode de fonctionnement qui parfois reste encore un petit peu cloisonné. Mais il y a effectivement des politiques d'études en commun, en particulier quand nous avons des actions communes. Je prends un exemple. Comment s'appelle le fait d'envoyer des gens dans le musée?
Pause musée,
merci Damien. Donc il y a un dispositif de pause musée qui permet à des visiteurs de la BPI de disposer d'une visite gratuite avec une conférencière du musée et qui leur donne la possibilité de revenir ensuite dans la BPI sans avoir à repasser par le circuit classique et la file d'attente. On a mis en place un dispositif d'enquête et d'évaluation commun autour de cette opération avec des données quantitatives et des données qualitatives. Quand la BPI fait une enquête de public, elle transmet les données au centre et vice-versa, mais parfois avec un décalage, c'est-à-dire que c'est pas aussi fluide qu'on pourrait l'imaginer. Je le dis pas négativement, hein, c'est simplement vous imaginez quoi, une forme de lourdeur administrative, hein, de nos modes de fonctionnement qui est tout à fait naturel.
Alors Christophe, je vais mettre les pieds dans le plat, c'est un peu ma spécialité, je gratte en général. Tout à l'heure, quand vous avez dit « Ah, mais il y a d'autres moyens, les téléphones portables. » Alors, quand on a fait une autre, il y a eu dans l'année une autre journée professionnelle organisée par nos collègues des musées, hein, autour justement de ces questions de fréquentation, il y avait une dame de l'Office du tourisme de Marseille qui est venue puis qui a expliqué que grâce à un partenariat avec Orange, disons-le franchement, ils avaient fait en effet des calculs très, très précis, très circonstanciés pour savoir au moment où Marseille, capitale de la culture, hein, pour savoir d'où venaient les gens. Et en effet, grâce à ce partenariat, ils ont su combien il y avait d'Européens, de non-Européens, combien il y avait de gens dans les calanques. Bon, avec quelques biais, hein, parce que la dame nous avait beaucoup amusés en nous racontant qu'il s'était aperçu que, par exemple, au large des calanques, hein, il y avait beaucoup de Philippins à Marseille. Hein, et en fait, ils se sont aperçus que c'était les téléphones portables des marins, hein, qui passaient au large de Marseille. Alors, un peu des biais. Mais alors, est-ce que justement, l'utilisation de ce type-là d'évaluation ne va pas ruiner tout autre mode d'évaluation, parce que finalement, comme vous l'avez dit, même les téléphones portables éteints peuvent nous renseigner sur la présence dans un lieu. Donc, est-ce que c'est pas... Vous n'avez jamais essayé de voir justement avec Orange comment on pouvait évaluer très précisément, et les études là sont très... Je vous ai dit, hein, on sait exactement qui, de quel pays, qu'est-ce qu'il a fait avant, qu'est-ce qu'il a fait après. C'est un peu terrifiant, hein, quelque part. Mais enfin, est-ce que ça, c'est pour ça que je dis que je gratte un peu là-dessus, parce que est-ce que ça ruine pas tous nos efforts par ailleurs avec nos petits portillons, nos petits portiques, etc., alors qu'il y a le téléphone qui permet de tout savoir.
Alors, en fait, pour nous, ce sont juste des données qu'on produit de temps en temps pour, comment dire, essayer de comparer des indicateurs avec des indicateurs innovants, hein, avec des indicateurs déjà en banque. On va pas beaucoup sur ce terrain parce qu'il y a tous les biais que tu viens de signaler. Voilà, et ils sont. C'est difficile d'ailleurs de tout imaginer en termes de biais. Et en plus, il faut rappeler aussi qu'une partie des usagers de la BPI, même si c'est extrêmement marginal, n'est pas équipé ni d'ordinateur portable, ni de téléphone portable, quelle que soit d'ailleurs la génération du téléphone portable. Donc pour nous, c'est évidemment une faille. Hein, donc pour nous, ça reste juste, un terrain de jeu. Oui, c'est presque ça. C'est-à-dire qu'on s'est amusé à essayer de calculer une fois justement le taux de répétition de visite de certains ordinateurs et téléphones portables. honnêtement, pour le moment, on va pas au-delà et on se lance pas dans des partenariats avec des opérateurs. Alors, quand on utilise, nous, ces données, il y a un travail de troncature, hein, c'est-à-dire qu'on va casser les identifiants, hein, parce que, voilà, il faut respecter aussi, évidemment, les protocoles juridiques, hein, en la matière et la protection des identités. Mais, voilà, on va pas beaucoup sur ce terrain pour le moment, sauf erreur de ma part, mais il faudrait poser la question à la direction de la BPI. C'est notre solution basique, plus analogique qu'autre chose par certains côtés, qui fait encore sens.
Puis sur un équipement vraiment bien localisé dans une zone dense. Puisque là, la solution en question, c'était, ça dépendait de comment, où la zone, où le téléphone bornait. Donc en fait, c'est pas forcément adapté à un équipement culturel qui peut être proche d'autres. Voilà, il n'y a pas une précision, je pense, suffisamment fine.
Et on avait une question d'une spectatrice en ligne. Il me semble que vous y avez déjà répondu, mais vous pouvez peut-être développer la différence entre entrée d'individus uniques et flux de personnes non identifiées. Qu'est-ce que vous mesurez, vous, et pourquoi ?
Ben, on mesure des entrées, c'est-à-dire un nombre de coupures d'un faisceau lumineux dans une, par rapport à une borne à l'entrée, quoi. Et en fait, une personne qui va sortir fumer sa cigarette, qui va acheter un café, va faire plusieurs entrées, plusieurs sorties. Quelqu'un qui reçoit un coup de téléphone à l'entrée, au mauvais endroit, et qui va piétiner, va faire 50 entrées, 50 sorties. Donc on mesure des passages. Et après, en croisant avec éventuellement des données issues du baromètre, on peut essayer d'estimer un nombre d'individus uniques qu'il y a derrière, des récurrences par rapport à des données déclarées. Mais voilà, faut bien garder en tête qu'on peut le traduire après par abus de langage. Il y a eu tant de visiteurs, mais en fait, il y a eu tant de passages.
Voilà. Alors, c'est toujours des humains à la base, hein, mais effectivement, on ne peut pas faire correspondre terme à terme les entrées et les entrants. De 1980 à 1997, on enregistrait 10 à 12 000 entrées à la BPI, mais les toilettes étaient situées à l'extérieur des portiques de comptage. Voilà.
Et alors, en fait, la spectatrice précise sa question, et c'est plutôt pour Gaëlle Denis, je pense. La question portait au niveau de la norme. Est-ce que vous... La norme porte sur flux de personnes non identifiées ou personnes individus uniques, entrée d'individus uniques.
Non, pour le coup, on est vraiment sur des entrées physiques, il n'y a pas la notion d'entrant. C'est pour ça aussi qu'après, dans la norme 11620, il y a la notion d'entrée dans la bibliothèque par personne, mais qui se fait justement aussi par le travail de pondération des entrées. C'est-à-dire qu'on peut imaginer aussi de mener une enquête d'observation pour pouvoir identifier un indicateur du nombre passage de moyens de gens qui vont fumer ou qui vont aller aux toilettes. C'est un grand classique aussi d'avoir des toilettes un peu extérieures à l'entrée principale où on mesure les portiques. C'est un des éléments à prendre en compte au moment de l'installation d'un dispositif, on le verra, pour appliquer une sorte de facteur correctif. En la matière, sur une grande partie des dispositifs qui existent aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité d'identifier de manière précise un individu, mais on le verra que les technologies ont évolué et qu'il y a des choses qui aujourd'hui sont possibles à faire, qui n'étaient pas possibles hier.
Toute petite précision aussi, parce que ça peut peut-être vous inspirer, pour le calcul de notre taux d'occupation qui est un peu particulier, hein, parce que c'est une moyenne de médiane rapportée à une jauge déclarée. Enfin, on pourra vous envoyer notre document. On avait confié en fait ce travail de proposition d'indicateur à un stagiaire NSAE et le dialogue avec lui a été extrêmement intéressant. Alors on est monté en compétence quoi à ce niveau-là. En interne, on n'avait pas hein, cette expertise. Ça a été très profitable pour nous.
Bonjour, vous avez évoqué les enquêtes qui ont été menées à plusieurs reprises. J'imagine que vous pouvez obtenir des indicateurs quand même un peu plus fins, parce que évidemment vous êtes contraint à un système où c'est juste des entrées, vous pouvez juste mesurer des entrées, donc j'imagine un peu décevant au niveau de la finesse d'analyse, mais je suppose qu'avec les enquêtes vous parvenez à obtenir des indicateurs plus fins, comme les types socio-professionnels des personnes qui rentrent, les âges, les types d'usages qu'ils ont au sein de la bibliothèque. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les indicateurs que vous pouvez mesurer grâce aux enquêtes?
Sur la dernière enquête de 2022, il y avait 90 questions. Donc effectivement, on a toute la partie profilage des personnes, CSP, niveau d'études, ce qu'ils ont fait sur place, l'origine géographique. Donc effectivement, là, on s'est concentré sur la brique la plus basique de la fréquentation, mais sur le contenu vu de l'intérieur, effectivement, on a recours à une enquête administrée, en fait. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut mettre en regard aussi ces deux types de données. Effectivement, toutes les données dont vous parlez, là, on les produit dans le cadre de cette enquête barométrique, mais qui, du coup, n'est pas sur la même récurrence, puisque elle est là actuellement, elle est plutôt annuelle. Auparavant, elle était tous les 3 ans. Et donc là, ça donne un complément sur une durée. Enfin, le flux de public, on peut le traiter en continu. Et justement, en croisant avec des données d'enquête plus ponctuelles, ça peut nous aider à comprendre le contenu du flux. En tout cas, on peut faire des hypothèses dessus. Mais c'est le traitement des entrées est absolument pas suffisant. C'est une brique, c'est une brique complémentaire d'autres types d'enquêtes.
De la même façon que les enquêtes quantitatives par questionnaire administrées en sortie définitive de bibliothèque a des vertus descriptives, mais qui sont elles aussi limitées et qu'il nous faut ensuite, parfois, souvent d'ailleurs, basculer sur des enquêtes qualitatives par entretien approfondi, focus group, pour bien comprendre ce qu'on nous dit aussi, pour que les gens comprennent bien nos questions et pour que nous, on comprenne bien leurs réponses. Et tout ça mérite d'être déplié. Et là encore, il y a des limites aussi, hein, des limites de représentativité, des limites, des biais de questionnement et ainsi de suite. Hein. Mais on essaye, nous, de faire jouer en permanence, hein, ces trois types d'éléments.